Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Le Premier ministre du Mali, devant le Conseil de sécurité à New York, demande des sanctions contre ceux qui ne respectent pas l'accord de paix d'Alger.
Au moins 10 morts et plusieurs blessés dans le nord-ouest de la République centrafricaine.
En Grande-Bretagne, meurtre d'une députée travailliste pro-européenne à une semaine du référendum sur le Brexit.
Le président Obama a visité hier Orlando en hommage aux victimes du massacre de dimanche dans une boîte de nuit gay.
En politique américaine, Bernie Sanders promet de travailler avec Hillary Clinton pour barrer la route à Donald Trump.
Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Premier ministre du Mali, Modibo Keïta, a donc demandé hier à l'ONU de sanctionner ceux qui ne respectent pas l'accord de paix et de doter ses casques bleus de mandats plus offensifs. Morgane Guiriec.
S'adressant au Conseil de sécurité de l'ONU hier à New York, Modibo Keïta a noté que celui-ci avait déjà menacé de sanctions ceux qui traînent des pieds dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Il a aussi appelé les signataires de l'accord à accélérer son application. Le Premier ministre malien a pris note de l'intention de l'ONU d'augmenter de 2500 hommes les effectifs de la MINUSMA, déjà forte de 12 000 hommes. Des attaques contre les casques bleus ont fait 19 morts ces derniers mois, faisant de la MINUSMA la mission la plus dangereuse parmi les opérations de maintien de la paix dans le monde. Pour le Premier ministre malien, il faut plutôt renforcer ses capacités opérationnelles, c'est-à-dire lui donner une posture plus robuste et plus active, et une définition de ses règles d'engagement. Le Conseil sous présidence française doit renouveler avant la fin du mois le mandat de la MINUSMA.
Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé hier une vidéo datant du mois de mai et apportant une preuve de vie de l'otage suisse Béatrice Stockley, selon le centre américain de surveillance de sites djihadistes SITE. ACMI détient Stockley depuis janvier au Mali.
Dans le nord-ouest de la Centrafrique, au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une attaque perpétrée par des peuls armés et des membres de l'ex-rébellion Séléka, plus importante violence dans ce pays depuis la dernière élection présidentielle. Précision de John Lyndon.
Cette attaque est la plus meurtrière depuis l'élection du président Faustin Akanji Touadéra en février dernier. Selon un officier de la gendarmerie, des éleveurs peuls en provenance de Kabo et Margunda au nord ont demandé à traverser Ngaoundaï pour aller vers la frontière avec le Cameroun. Ils se sont heurtés au refus des habitants. Puis, les peuples appuyés par des ex-Séléka sont entrés dans le centre de Ngaoundaï mardi, tirant sur les habitants, incendiant des maisons ainsi que la brigade de gendarmerie. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées. Pour l'instant, les lignes téléphoniques sont coupées à Ngaoundaï. Des gendarmes ont été envoyés en renfort pour sécuriser la région. Certains de ses habitants ont fui pour se réfugier en brousse.
Côte d'Ivoire, des associations de victimes du déversement des déchets toxiques du cargo Probo Koala en 2006 à Abidjan ont salué jeudi une décision de justice à Londres condamnant le cabinet Lee Day à restituer leur indemnisation à 4 752 victimes.
Au Niger, deux des trois journalistes inculpés pour divulgation de documents issus de perquisitions et diffusion d'informations pouvant influencer une décision de justice ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Le troisième, qui est l'imprimeur du journal, a été relaxé. Le journal Le Courrier avait publié en mai des listes de personnes non qualifiées à admettre à un concours établi par des hauts placés du régime de Niamey et transmises aux organisateurs du dit concours. Les journalistes ont été jugés, je cite, non pas sur la base de la loi qui régit la presse au Niger, ce qu'a tenu à dénoncer un de leurs avocats après le verdict, Maître Mossi Boubacar.
Pour ce qui est du résultat, je suis quand même satisfait du fait qu'ils n'ont pas continué à garder prison. Mais en termes de procédure, il y a quelque chose à dire. Pourquoi ? Parce que c'est quand même des journalistes. Il y a une loi sur la liberté de presse. Cette loi n'a pas été appliquée. On va se concerter avec les autres avocats et les clients pour savoir quelle attitude adopter. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on mette les moyens pour faire une loi, qu'on fasse de la propagande pour tirer les conséquences de l'élection. l'élaboration de cette loi et que dans l'application, cette loi soit mise au placard. Ça ne sert à rien de faire des lois et les mettre à l'écart.
Maître Mossi Boubacar, au micro d'Abdulrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
En République démocratique du Congo, l'Union nationale de la presse congolaise décrète le lundi 20 juin prochain journée sans médias sur l'ensemble du pays. Objectif protester contre la hausse du tarif des données Internet mobile que cette organisation de la presse congolaise considère comme une entrave grave au travail journalistique. Boukar Kasonga Chilunde est le président de l'UNPC. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À dater de lundi 20 juin 2016, l'UNPC décrète une journée sans presse sur l'ensemble du territoire national et cela va se répéter chaque lundi. En d'autres termes, aucune station de radio ou chaîne de télévision ne mettra, aucun journal ne sortira de presse. L'UNPC lance également une opération dite « lundi sans crédit » et appelle la population congolaise à ne pas acheter le crédit téléphonique chaque lundi jusqu'au retour des tarifs initiaux. Un comité de suivi de l'exécution de cette action de la corporation journalistique a été mis en place. Tous les médias congolais sont priés d'appliquer et de médiatiser ces mesures conformément à l'article 14 du code de déontologie. Il y va de la survie de la profession. Tous nous voulons que les choses changent. Nous nous perdons, vous vous perdez, eux aussi perdent. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez perdre un jour par semaine pour une cause juste et noble, je crois qu'il ne faut pas le regretter.
C'était Boukar Kasonga Chilunde, président de l'UNPC, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, le meurtre d'une députée travailliste pro-européenne a fait basculer dans le drame la campagne du référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, et ce à une semaine du vote. Bagassi Koura.
Jo Cox, âgé de 41 ans, a été tué par balle hier à Bristol, dans le nord de l'Angleterre, à 7 jours du référendum du 23 juin. Elle battait campagne pour que son pays reste au sein de l'Union européenne. Son agresseur aurait crié « Britain first », soit le Royaume-Uni d'abord. La police a interpellé un suspect, mais le motif du meurtre n'est pas encore déterminé. Le camp pro-Europe a suspendu sa campagne. Le Premier ministre David Cameron a annulé son meeting hier à Gibraltar, tout comme Boris Johnson, ancien maire de Londres, chef de file du camp pro-sortie. Nigel Farage, le chef du parti europhobe, s'est dit attristé. C'est une attaque contre tous les partisans de la démocratie, a affirmé John Kerry, le secrétaire d'État américain en visite à Copenhague. Deux nouveaux sondages publiés hier donnent gagnant un Brexit ou British Exit, une sortie de l'Union européenne qui renforce les inquiétudes à Bruxelles et dans les milieux économiques.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama s'est rendu hier à Orlando où il a rencontré et consolé les proches des 49 personnes tuées et des 50 autres blessées dans le massacre de dimanche dans une boîte de nuit gay de cette ville de la Floride. Il a déclaré à cette occasion qu'il n'avait pas de réponse facile à leurs questions sur les raisons pour lesquelles les fusillades de masse se répétaient aux États-Unis. « Nos cœurs sont aussi brisés », a déclaré le président, qui était accompagné de son vice-président Joe Biden lors de cette visite.
Enfin, en politique américaine, sans formellement se rallier à Hillary Clinton, Bernie Sanders a dit qu'il s'agit de battre Donald Trump et de façon éclatante à la présidentielle de novembre. M. Sanders a dénoncé les préjugés de M. Trump, citant ses insultes contre les Hispaniques, les musulmans, les femmes et les Africains-Américains, ainsi que son rejet du changement climatique. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe à présent au journal de l'Euro 2016, présenté par Nicolas Pinot. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Allemagne accrochée.
Oui, premier match nul 0-0 de 7 euros pour Allemagne-Pologne hier soir. Les Allemands supérieurs techniquement ont été bousculés, mais surtout n'ont jamais pu trouver le chemin des filets. Ce matin, Allemands et Polonais se partagent la première place du groupe C avec 4 points chacun. Devant l'Irlande du Nord, 3 points après sa victoire 1-0 hier sous les Grêlons de Lyon. La partie a même dû être interrompue quelques minutes. Alors la Pologne va-t-elle réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale? Pour cela, il faudra au moins faire match nul contre l'Ukraine déjà éliminée. Comme dans les années 70-80, la Pologne va-t-elle tutoyer les grands d'Europe? La Pologne serait-elle de retour au sommet du foot européen? C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. Le match Allemagne-Pologne dans la poule C ramène des nostalgiques aux grandes affiches des années 70-80, lorsque les Polonais jouaient les tireurs des stades aux côtés de équipes comme la Hollande de Johan Cruyff, l'Allemagne de Gerd Müller ou encore la France de Michel Platini. Elle accumulait les affiches, frôlait le bonheur, mais ne gagnait pas. Pourtant, personne ne voulait la planter. Puis l'histoire s'est accélérée à la fin des années 80. Les priorités ont été ailleurs. Et les dieux des stades, Lato, Dadocha, Kéna et autres bonnets n'ont pas été remplacés. Le passage à vide est devenu long, trop long. Depuis l'Euro 2012 à domicile, la Pologne réapparaît dans le casting des grandes compétitions. Un leader se distingue dans le groupe, Robert Lewandowski, une machine à marquer des buts que le Bayern ne saurait lâcher. En retrouvant la Mannschaft à Saint-Denis pour la confirmation d'un début de compétition excellent, Lewandowski et les siens ont l'occasion de signer un retour gagnant face à un voisin qui n'a pas cessé de s'alimenter dans le vivier polonais pour construire son palmarès. Un parfum de derby a donc flotté dans l'air à Paris et c'est le foot qui y a gagné. À demain.
Dans le groupe B, l'Angleterre a fait un pas sérieux vers la qualification. Une victoire 2-1 hier à Lens, comme nous l'explique Bagassi Koura.
Oui, ce fut un derby tendu. Angleterre-Pays de Galles, un match indécis et forcément passionné qui s'est terminé par la victoire tardive des Anglais, 2-1, grâce notamment à Vardy et Sturridge, les deux remplaçants qui permettent pour le coup de doubler les Gallois au classement. Les Gallois qui ont pourtant marqué les premiers en ouvrant le score pour le Pays de Galles. Gareth Bale succède à la légende de l'équipe de France, Zinedine Zidane, dernier joueur à avoir marqué un coup franc direct à l'Angleterre lors d'un Euro. En 2004, avec 4 points, l'Angleterre reprend le contrôle des opérations tandis que le Pays de Galles, à une unité derrière, reste à la lutte avec la Slovaquie. La Russie ferme la marche avec seulement un point.
Et ce soir, le champion d'Europe en titre, l'Espagne, affronte une Turquie revancharde et la Croatie face à la République tchèque. Les Italiens retournent aussi sur la pelouse. Après une entrée fracassante face à la Belgique, l'Italie revient sur le terrain pour son deuxième match du groupe. Cette fois face à la Suède, qui elle a été tenue en échec par l'Irlande au Stade de France lors de la première journée. Les enjeux de cette rencontre avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzu.
Pleine de confiance, l'Italie a toutes les cartes en main pour assurer sa place en huitième de finale dès son deuxième match. Serein mais extrêmement appliqué à la tâche, les hommes d'Antonio Conte n'ont prévu aucun changement de plan. Le 4-4-2 solide aperçu contre la Belgique devrait être identique face à la Suède. Légèrement touché au pied contre les Belges, l'attaquant Graziano Pelé sera normalement présent. Côté suédois, l'enjeu est peut-être un peu plus crispant. En cas de défaite, les Nordiques réduiraient considérablement leurs chances de qualification. Et puis ce Suède-Italie, c'est aussi l'occasion pour Zlatan Ibrahimovic de retrouver ses camarades italiens. Le capitaine suédois a évolué en Serie A durant 7 saisons et se fera un malin plaisir de freiner la progression de la squadra Azzurra. Ce sera au Stadium de Toulouse, une enceinte qu'il a régulièrement fréquentée ces dernières années, sous le maillot du PSG. À Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Voilà pour ce journal de l'Euro. En bref,
la Copa América est le premier quart de finale cette nuit, Drissa, entre l'Équateur et les États-Unis.
Les États-Unis se sont qualifiés pour les demi-finales en battant l'Équateur 2-1 jeudi à Seattle, dans l'État de Washington.
Et puis la grande finale NBA, le sixième match, avait lieu entre Golden State et Cleveland.
Les Cleveland Cavaliers sont revenus jeudi à la hauteur des Golden State Warriors dans la finale 2016 en battant les champions en titre 115-101. Cleveland n'a plus besoin que d'une victoire pour réussir le comeback le plus retentissant de l'histoire de la NBA. Les deux équipes sont à égalité, 3 victoires partout.
It's the ones for you. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo, Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été écroué et placé en détention préventive à la maison d'arrêt de Brazzaville. Le procureur le poursuit pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions. Il venait de passer deux nuits en garde à vue depuis mardi à la Direction générale de surveillance du territoire. Quel est l'impact de cet emprisonnement sur la crise post-électorale au Congo? Question posée ici à Washington aux chercheurs sur le Congo et l'Afrique centrale auprès de NED Ellie Smith par Eric Manirakiza.
C'est une erreur, une fois de plus, une erreur stratégique de la part du président Denis Sassou Nguesso et son régime. Ça démontre que, contrairement à toute apparence, c'est un régime qui est aux abois.
Erreur pourquoi? Comment vous l'expliquez?
Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas un homme politique professionnel. L'erreur est que ça a commencé dès le premier jour où M. Jean-Marie Michel Mokoko a décidé de venir à Brazzaville pour briguer la magistrature suprême, aller l'agresser à l'aéroport, lui donner plus de 4 convocations pour se présenter à la police. On a transformé un homme qui devait être un homme ordinaire en un héros national. C'est ça qui fait aujourd'hui que j'interprète ça comme une erreur. Ça démontre que M. Sassou Nguesso, un homme qui a été au pouvoir pendant 33 ans, qui on peut ne pas l'aimer, on dit toujours qu'on ne peut pas aimer le lièvre, mais on ne peut pas refuser que le lièvre court vite. Il a eu le dessus sur tous les hommes politiques au Congo, mais la manière qu'il est en train de traiter M. Mokoko, il rend Mokoko comme un grand adversaire. Et aujourd'hui, Mokoko est devenu ce que je pense Mokoko, pas le dénigrer. Peut-être il ne devait pas mériter parce qu'il y a d'autres hommes politiques au Congo qui ont travaillé dans l'opposition. Mais aujourd'hui, grâce aux erreurs de M. Sassou Nguesso, M. Mokoko est devenu un héros.
Le général Mokoko, il est issu du Nord, Sassou Nguesso également. Quelle implication sa détention pourrait avoir au niveau de l'armée?
Au niveau de l'armée, ça a déjà créé une certaine division parce que, M. Sassou Nguesso, comme beaucoup de chefs d'État africains, ne s'attelle pas à créer une armée nationale, mais fait tout possible de créer une armée tribale ou régionale. Bon, M. Mokoko vient du Nord comme Denis Sassou Nguesso. D'abord, c'est ça qui met en question, parce que M. Sassou Nguesso, d'apparence, il se présente comme quelqu'un qui aime la nation, mais c'est quelqu'un qui est foncièrement tribal. Il réussit quand il y a la division. Dans le Nord, il s'est présenté comme le chef du Nord, mais cette fois-ci, il a eu quelqu'un qui n'est pas uniquement chef du Nord, mais chef sur l'ensemble du territoire. Parce que M. Mokoko a démontré sur la face du monde que les Congolais ordinaires ne sont pas des gens divisés sur base ethnique, mais que c'est les hommes politiques qui les divisent. Et le chef qui crée la division au Congo, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Donc au Nord, l'armée aussi est divisée et c'est là où ça met que le Congo est vraiment en péril.
C'était Ellie Smith du NED dans la capitale américaine, Washington DC. Edem Kodjo rencontre l'opposition congolaise. Aujourd'hui à Bruxelles, le facilitateur désigné par l'Union africaine pour le dialogue politique en RDC tentera de convaincre les opposants de participer aux travaux du comité préparatoire de ce dialogue. Mais comment l'opposition, qui a lors de son récent conclave rejeté le dialogue dans le format convoqué par le président Joseph Kabila, va-t-elle accueillir Edem Kodjo? Eddy Issango a joint à Bruxelles Joseph Olengakoy.
Nous voulons la résolution des Nations Unies. Cette résolution ne parle pas de l'affaire du dialogue seulement. On parle du respect des calendriers électoraux, du respect de la Constitution. Nous allons rester de manière stricte sur cette résolution-là et nous n'attendons pas faire une politique de faire plaisir à qui que ce soit. Deuxièmement, nous avons demandé à ce qu'il y ait un panel. Le panel, pour nous, c'est qu'il y a la co-facilitation, c'est-à-dire il y a les États-Unis d'Amérique, il y a les Nations Unies, il y a l'Union Européenne, il y a la Francophonie et enfin l'Union Africaine. On n'a qu'à pas marchander ni négocier sur ce point-là. Mais c'est Edem Koundé doit comprendre que à l'époque où il défait la CIA, c'est tout à fait différent de la situation d'aujourd'hui.
Monsieur Edem Kodjo dit que la résolution 2277 que vous évoquez ne parle pas d'un autre dialogue que celui qu'il est en train de préparer.
Celui que Kodjo est en train de préparer là, c'est un dialogue qui est déjà mort. Parce que ça, c'est le dialogue de Kabila. C'est sur la convocation de l'ordonnance de Kabila. Mais c'est ce dialogue-là que la classe politique n'en veut pas. Moi, je crois qu'on est clair là-dessus. On n'en veut pas de ça. Nous, on n'est pas là pour aller assassiner notre constitution. Le dialogue de Kabila, c'est pour l'assassinat de la constitution. Et ils cherchent avec qui ils peuvent assassiner la constitution. Nous, nous sommes pour l'établissement et la consolidation de notre constitution.
L'UDPS prépare les dialogues avec le PPRD au pouvoir depuis plus d'un an. Et Étienne Tshisekedi, dans son discours d'ouverture au conclave, vous a appelé à l'unité pour justement prendre part au dialogue.
Maintenant, il faut choisir. Est-ce qu'on a besoin de toute la classe politique congolaise? C'est-à-dire, on a besoin de la dynamique de l'opposition, on a besoin des G7, on a toute la classe politique congolaise, y compris les IDPS. C'est ce dialogue-là que nous cessons de vous dire que ça reste fermement dans la résolution 2277. Alors, si l'IDP va citer de ces accords-là pour aller négocier, faire des conciliations avec M. Koto, ça va engager que l'IDP. Mais moi, je parle ici au nom de la dynamique et des résolutions que nous avons de commun accord signées publiquement devant Dieu, devant la nation et devant la communauté internationale.
Joseph Olengakoy, porte-parole de la plateforme dynamique de l'opposition, joint à Bruxelles.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Afrique du Sud, l'on s'est rappelé hier le soulèvement sanglant de Soweto il y a 40 ans. Des violences inédites ont marqué un tournant décisif dans la lutte contre l'apartheid. C'était le 16 juin 1976. Comment les Sud-Africains ont-ils vécu cet événement ? Eric Manirakiza a joint à Pretoria le professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA, André Thomas Hossen.
Il y a la nouvelle identité de l'Afrique du Sud qui célèbre et qui se remet dans la pensée de la résistance populaire. C'est d'une espèce de printemps africain bien avant le printemps de l'Afrique du Nord. C'était la population qui s'est levée, les forces de sécurité du régime de l'apartheid. Ils ont réagi avec un excès énorme de violence qui n'était pas du tout nécessaire parce qu'il s'agissait des démonstrations complètement pacifiques.
Vous parlez d'une nouvelle identité. Est-ce qu'on peut dire que les plaies se sont cicatrisées?
Pas tout à fait, c'est bien clair. Il y a des cicatrices, il y a des sentiments de peine sur ce qui s'est passé. Pendant des siècles, en effet, ce peuple avait été traité comme des humains de seconde catégorie qui n'avaient pas les mêmes droits et qui ne pouvaient pas exiger les mêmes droits. Et la paix en Afrique du Sud entre les groupes ethniques est fragile et elle peut très facilement être menacée par des difficultés économiques, par une baisse encore plus évidente dans l'économie du pays, sur leur misère, sur le manque d'opportunités de travail, le manque d'habitation, le manque d'opportunités, le manque d'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Et tout ça, ça devient encore un peu plus pénible et difficile pour l'Afrique du Sud.
Est-ce que le leadership du pays est conscient de toutes ces menaces pour éviter de faire ressusciter les anciens démons?
Absolument. La campagne électorale, elle sera difficile et elle nous montrera que le ANC est en train de commencer une nouvelle époque post-néo-libération, époque où seulement les fêtes de la grande victoire de la libération ne pourront pas donner toujours les réponses aux problèmes concrets des gens.
Comment l'homme blanc de descendance occidentale est-il perçu par la population noire?
C'est très intéressant parce qu'il y a sans aucun doute un succès du parti d'opposition qui est géré par un Africain, mais qui est surtout un parti des professionnels, des cadres blancs. Et cet appui se base un peu sur la perception que pour avoir une meilleure gestion, il faudrait mieux réintégrer les professionnels blancs, les ingénieurs blancs, les administrateurs blancs qui ont évidemment beaucoup plus d'expérience.
Le professeur André Thomas Hossen, joint à Pretoria. Au Cameroun, plus de 200 kilos d'ivoire ont été saisis et 45 trafiquants arrêtés dans le sud du Cameroun. L'ivoire venait du Gabon et avait pour destination, via l'océan Atlantique, le Nigeria. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Selon George Moncharu, délégué régional de la forêt et de la faune du sud Cameroun, les 45 trafiquants proviennent de 6 pays d'Afrique. Ils sont soupçonnés d'être membres d'un réseau de trafiquants présents au Cameroun, Gabon et Nigeria.
Un bateau en provenance de Libreville et qui allait au Nigeria, qui avait des problèmes d'approvisionnement en carburant, a dû accoster au niveau de Bodje pour essayer de se ravitailler. Lorsqu'ils se sont accostés, le bataillon de fusiliers marins a dû procéder au contrôle immédiatement et a constaté qu'ils se retrouvaient avec des clandestins. Les Nigériens en grand nombre, les Gambiens, les Nigériens, les Béninois, il y avait trois caisses qui contenaient des pointes d'ivoire. Avant, nous savions que ça se passait par les routes, mais là, avec cette saisie, on constate qu'il y a un nouveau réseau de trafic qui se passe par la mer.
Les ONG comme Trafic, qui s'occupent de la protection des espèces animales sauvages en voie de disparition, annoncent un fort retour de trafiquants d'ivoire en Afrique centrale à cause de la montée des prix dans les pays asiatiques. Quand Abesolo François, chargé des programmes de ces ONG en Afrique centrale.
Le revenu moyen de l'Asiatique, notamment Chine, Thaïlande et autres, est assez élevé. Il s'est développé en eux le souci d'acquérir des biens de luxe, parmi lesquels l'ivoire en provenance de l'Afrique. Et le prix monte donc jusqu'à atteindre parfois les 3 000 $ le kilo. Et ce qui fait que la demande est très forte là-bas et elle se répercute jusqu'à toucher l'Afrique centrale, qui est l'une des principales sources de ravitaillement.
Pan Abesolo précise que les trafiquants d'ivoire développent les nombreuses tactiques pour échapper au contrôle policier et militaire dans les pays centrafricains.
Ils utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués pour tromper la vigilance des services de contrôle. Ils découpent parfois les ivoires et mettent dans des fûts d'huile, ce qui est souvent difficile à détecter au niveau des scanners, là où il y en a. Parfois, ils pulvérisent les ivoires et ils transportent cette poudre pour aller les remouler à l'arrivée. Il y a aussi des façons où on enferme l'ivoire dans un objet d'art. Parfois, on enroule des tapis. Vous allez dire que c'est du mobilier alors qu'il y a des ivoires à l'intérieur.
En avril dernier, le Cameroun a détruit plus de 2000 ivoires saisies dans son territoire en 2 ans. Les ONG annoncent déjà la disparition de plus de 60% des éléphants en Centrafrique depuis 20 ans. Et si des mesures ne sont pas mises à disposition, ces espèces dites entièrement protégées seront en voie de disparition. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Nous passons maintenant à la Minute Éco avec John Linden.
Le Conseil économique et social de Côte d'Ivoire a un nouveau président, Charles Kofi Dibé, puisqu'il s'agit de lui, a été nommé hier par le président Alassane Dramane Ouattara. Il a été ministre de l'économie et des finances pendant une dizaine d'années avant de prendre la tête du ministère des Affaires étrangères. Au Conseil économique et social, il va remplacer Marcel Sadi Kessi, dont le mandat est arrivé à expiration. La Banque centrale du Nigeria a ouvert la voie mercredi à la dévaluation du Naira, la monnaie nationale, afin de rassurer les investisseurs étrangers alors que le pays traverse des turbulences économiques. La chute des cours mondiaux du pétrole, qui compte pour environ 70% des revenus de l'État et 90% des réserves et des devises étrangères du pays, a plongé la première économie d'Afrique dans une crise économique et financière sans précédent. Depuis mars 2015, le taux de change officiel était de près de 199 naira pour 1 dollar. La justice algérienne se prononcera d'ici au 15 juillet sur le rachat du groupe de presse El Kabar par le milliardaire Issat Rebrab. Ce rachat est gelé depuis mercredi. Issat Rebrab, première fortune de l'Algérie, déjà propriétaire du quotidien francophone Liberté, a dépensé environ 40 millions d'euros pour s'offrir le groupe El Kabar.
Le Monde, aujourd'hui VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.